De retour en direct du plateau de la COP d'ici. Nous sommes sur la place de la Calade face au très beau théâtre de Nîmes. Nous sommes le samedi 9 décembre. Merci à toutes et tous d'être avec nous sur Radio Alliance Plus. Vous nous écoutez peut-être sur le 103.2 FM ou sur notre site internet radioalliance.fr. À l'instant, nous venons d'entendre Björk, une très très jolie musique. On a une très belle sélection grâce à Jordan Erlem, ici présent, qui interview les associations accompagnées de Victor Delaforge. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre cette présentation justement des associations qui sont sur l'Agora citoyenne avec Philippe Devers qui représente The Shifters. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous pour nous présenter justement donc The Shifters. Qu'est-ce qu'on entend par The Shifters ? Qui êtes-vous ? Que faites-vous ?
Alors en fait, il y a deux entités. Il y a le Shift Project, qui est une entreprise qui est co-présidée par Jean-Marc Jancovici. Donc c'est une entreprise qui s'intéresse à la décarbonation des activités, de nos activités économiques, et notamment qui a produit, c'est un exemple important, un ouvrage qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. On pourrait y revenir si vous voulez. Et à côté de cette entreprise qui est une forme associative, il y a une association de bénévoles, les shifters. Donc shift, c'est changer. On dit qu'on veut shifter, donc on veut changer, se changer soi-même et changer les autres. Donc notre rôle en tant que bénévole shifter, c'est à la fois de venir en appui et en relais au Shift Project, et donc d'infuser sur le territoire des bons messages, d'essayer d'influencer les décideurs locaux, le Shift Project en chargeant au niveau national. Voilà en quelques mots.
Alors, vous avez évoqué le plan de transformation de l'économie française. Hein. C'est un livre qui était paru donc en 2022, si je ne dis pas de bêtises.
Juste avant les élections, je crois ça.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cet ouvrage ?
Alors, effectivement, la planification écologique dont on parle maintenant a été initiée finalement par le Shift Project à ce moment-là. En fait, c'est durant la période du Covid, ils se sont dit mais comment on pourrait profiter de cette période pour réfléchir un peu à notre avenir. Et le plan de transformation de l'économie française, c'est un exercice qui vise à se dire on a déjà émis tant de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Si on veut viser la neutralité carbone en 2050, on n'a plus que tant de tonnes de CO2 à émettre compte tenu des puits de carbone que constituent les océans, les sols et puis la végétation. Et donc, on a donc un volume d'émissions de CO2 à répartir finalement entre tous les secteurs, combien dans le logement, combien dans l'agriculture, combien dans l'industrie. Et donc il y a eu des groupes de travail qui ont travaillé donc par secteur pour essayer de définir quel pouvait être le volume affecté à chaque secteur. Et puis, chose importante, le Shift Project qui a regardé les conséquences en termes d'emploi. Parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, moins de voitures thermiques, plus de voitures électriques, en fait, globalement, moins d'emplois dans la filière automobile. Par contre, beaucoup plus d'emplois dans la filière agriculture. Et l'étude montre, en fait, qu'on est plutôt légèrement excédentaire, c'est-à-dire qu'on crée plutôt plus d'emplois qu'on en perd. Par contre, c'est au prix de reconversion importante. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. On va vers un monde en fait où le changement imposera des reconversions des entreprises, des reconversions des hommes et des femmes, donc de la formation, et c'est ça évidemment qui sera difficile.
Alors vous avez évoqué Jean-Marc Jancovici, hein, qui est un peu votre porte-parole, qui a été le créateur initial du Shift Project. C'est vrai que j'ai envie d'évoquer un petit peu cette personne avec vous et ensuite on passera un peu plus sur l'implication locale. C'est une personne qui parle beaucoup du nucléaire, bien sûr, qui est un fervent défenseur du nucléaire. Je pense que c'est une question qui vous revient souvent. Est-ce que vous, en tant que shifter, est-ce que une grande majorité de votre groupe sont dans la même position que lui vis-à-vis de cette énergie-là, c'est-à-dire un défenseur en pensant que c'est l'énergie qui va permettre en fait de décarboner notre société, ou bien vous aussi vous émettez des réserves comme certains membres écologistes?
Alors Jancovici, il a de grandes qualités de tribun, il a des idées qui sont les siennes, qui ne sont pas forcément ou pas complètement celles du Shift Project, ni celles des shifters en général et des shifters en particulier aussi. Donc on ne peut pas dire qu'on est pro-nucléaire à 100%. Je pense qu'on est une majorité à constater qu'on a besoin du nucléaire actuellement. Là c'est une position un petit peu donc différente.
Alors la question qu'on peut se poser aussi par rapport à ce plan de transformation de l'économie française, c'est est-ce que vous avez connaissance de décisions nationales ou décisions locales politiques qui auraient pris leur source de ce plan de transformation? Et même la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement c'est pas un programme politique?
Ben oui, c'est de la politique, en fait, avec un grand P, je dirais. Le gouvernement, Emmanuel Macron, quand il s'est présenté avec un projet de planification écologique, c'est complètement...
On l'attend toujours.
C'est en cours. C'est complètement la même idée que le plan de transformation de l'économie française. Et actuellement, il y a des COP régionales qui se déroulent pour décliner au niveau régional les objectifs nationaux en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la région Bretagne est venue voir le She Project pour, en fait, territorialiser le plan de transformation de l'économie française, et la région Grand Est rejoint également le mouvement. Donc on s'aperçoit qu'on aura dans les régions, et le CHUPROJECT qui travaille sur d'autres projets de ce genre, on aura dans les régions finalement la définition d'objectifs régionaux, et donc après, une fois qu'on a défini les objectifs, comment on fait pour réduire les émissions et comment on s'attelle à faire bouger les secteurs dans la bonne direction, les secteurs économiques dans la bonne direction.
Au sein des shifters, on retrouve quel type de personnes? Des ingénieurs, tout type de personnes?
Alors au départ, c'était beaucoup des ingénieurs et c'était même beaucoup des étudiants. Quand j'ai rejoint, moi j'ai les cheveux blancs, quand j'ai rejoint les shifters, je me souviens, dans un café à Montpellier, on était deux à avoir plus de 40 ans, les autres étaient des étudiants. Ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est plutôt des actifs entre 30 et 45 ans, disons, en gros, même s'il y a quelques retraités. C'est intéressant, les retraités, ça permet de travailler davantage pour l'association. Et en fait, on recherche maintenant d'autres projets. Profil qu'ingénieur. On recherche des femmes, et il y avait beaucoup d'hommes et peu de femmes au départ, et on recherche également des gens qui viennent des sciences humaines. Mais tout le monde est bienvenu, il y a du travail pour tout le monde, donc c'est pas forcément des CSP+ qui font partie de l'association.
Vous avez une estimation du nombre de personnes? Nombre de shifters en France
Dans le monde, parce qu'il y a également des shifters au Canada, en Suisse, en Belgique, c'est 25 000. Inscrit sur notre canal de communication en Languedoc-Roussillon, ouais. Parce qu'on n'est pas encore régionalisé Occitanie, on est Languedoc-Roussillon, on est 200.
Okay.
Comme dans toutes ces associations, il n'y a pas 200 personnes qui travaillent régulièrement pour l'association.
Qui vous soutient? Comment vous vous financez? Comment ça se passe au niveau du financement? Comment ça se passe au niveau tout simplement de l'organisation
Donc le CHUPROJECT est une entreprise qui se finance, qui fait ses études financées. Ouais. Aujourd'hui, ils attendent le financement, un financement pour lancer une étude justement sur les objectifs régionalisés. S'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'étude. Nous, shifters, nous sommes bénévoles, donc on cotise à une association et on a des ressources également, mais très peu, qui viennent de la fresque de la mobilité. Vous savez qu'il y a un tas de fresques qui existent nationalement, et la fresque de la mobilité, c'est les shifters qui l'ont mis au point. Et donc, quand on l'anime auprès d'une collectivité, il y a une rétribution financière. Donc, on n'a pas un budget énorme, puisque on se déplace gratuitement, on agit gratuitement, nous sommes des bénévoles.
Et donc, vous, vos actions, on va dire quotidiennes, mais on va dire vos actions au sein des shifters, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment de la vulgarisation et également de l'accompagnement dans les régions que vous mentionniez, c'est ça?
Oui, on a en fait quatre groupes de travail, je crois. On a un groupe de travail à destination des collectivités locales, un autre auprès des entreprises qui viennent de se créer, un autre auprès du grand public. Et puis également, on a un groupe qui étudie l'impact carbone des infrastructures routières nouvelles. Il y a eu le lien à Montpellier, il y a eu le contournement, c'est actuellement, on est en train de sortir le rapport, le contournement de Montpellier, il y a eu le contournement ouest de Nîmes, on a sorti le rapport il y a quelques semaines, et puis également une déviation du côté de Céret. On s'aperçoit à chaque fois, juste une parenthèse sur ce sujet, que le poids, l'impact carbone de ces infrastructures nouvelles est très important, d'autant qu'il y a un trafic induit par une nouvelle route. Chaque fois qu'il y a une nouvelle route, il y a un trafic induit. Donc on réduit les embouteillages pendant quelques temps et après ça redémarre. Et donc, entreprise, on va collaborer, par exemple, à la nouvelle agence de développement et des transitions de l'agglo de Montpellier. On va travailler avec les maires du Gard, pour donner quelques exemples. On a une action prévue en mars. On a animé une fresque de l'économie circulaire avec des intercommunalités de l'Est gardois. Et puis on anime assez fréquemment des fresques de la mobilité pour le grand public.
Alors, je pense, enfin, en tout cas c'est mon avis, une des raisons pour lesquelles le plan de transformation de l'économie française a eu un tel impact médiatique, parce qu'on en a quand même beaucoup entendu parler, c'est le côté pragmatique de la chose, c'est-à-dire que vous, vous arriviez à confronter vraiment en termes économiques, en termes d'emploi, en termes environnemental bien sûr, en termes de neutralité carbone. Comment est-ce que vous, vous arrivez à mettre en place ce pragmatisme au quotidien ?
L'avantage du plan de transformation de l'économie française, c'est qu'on ne parle pas d'euros et on parle de volume physique. Et ça, c'est important de faire comprendre que l'économie, ce n'est pas seulement des euros, c'est aussi des kilomètres parcourus, c'est aussi des tonnes de produits alimentaires, de tonnes de CO2, bien sûr. C'est une évolution qui, maintenant, est passée dans les mœurs et c'est quand même très intéressant. Donc nous, à notre échelle, c'était, je crois, ça la question, on n'est pas encore sur la régionalisation des objectifs. Ça va sans doute venir, mais on n'y est pas encore. Hein, on travaille dans le sens, dans la direction du plan de transformation de l'économie française. On n'est pas encore à l'appliquer vraiment dans les territoires.
Et est-ce qu'aujourd'hui, après 2 ans, ou bientôt 2 ans de vie, est-ce que vous pensez que ce document, ce plan est destiné à vivre ? Est-ce qu'il y a des nouvelles versions qui sortent ? Ou est-ce que c'est plus ou moins figé dans le marbre ?
Non, on s'est rendu compte que le secteur de l'agriculture, par exemple, n'avait pas été assez travaillé. Donc actuellement, le Chiffre Project travaille sur le secteur de l'agriculture. Et puis le travail qui va être fait en Bretagne et en région Grand Est pour régionaliser les objectifs et travailler concrètement comment reconvertir les différents secteurs économiques, ça va être source. On va apprendre des choses et ça va sans doute permettre de revenir sur le plan national. C'est un ouvrage qui est destiné à vivre, hein. C'est pas gravé dans le marbre.
Je me mets un peu à la place des auditeurs, hein, qui nous écoutent. Souvent, la question se répète, mais comment on finance une transition écologique en France dans les conditions actuelles ? Quel est votre avis personnel ?
Personnel ?
Oui, personnel, ou en tant que shifter. Enfin, bon.
C'est évidemment une bonne question. Volontairement, d'abord, c'est une question que le Chiffre Project n'a pas abordée. Il n'aborde pas la question, ou assez peu, du financement, un peu, mais sous l'angle de la finance durable, mais assez peu. En fait, on se rend compte que lorsqu'il faut trouver de l'argent, on en trouve. C'était le cas il n'y a pas longtemps, hein, après la crise de 2008. La Banque Centrale Européenne a inventé le quantitative easing et en fait a créé de l'argent. Dans les années 70, on crée de l'argent également facilement avec la direction du Trésor. Donc je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Il faut sans doute croiser différentes solutions entre la dette, la fiscalité qu'il faut peut-être revoir. En fait, le GIEC a... Une parenthèse qui nous paraît importante sur les conditions de la réussite, c'est que le GIEC a considéré qu'il y avait au moins deux conditions à la réussite, à la transition écologique. D'une part, démocratie participative. On n'imposera pas aux gens ce qu'il faut faire. Il faut travailler avec eux pour savoir quelles sont les solutions. Et d'autre part, la justice sociale. Et on sait bien qu'il y a des corps de salaire très importants, que 65 milliardaires en France émettent autant de CO2 que la moitié de la population française. On se dit que ça, on ne pourra pas continuer. Donc il y a un levier aussi de financement sur la fiscalité. Donc la dette, la fiscalité, peut-être aussi des solutions nouvelles, innovantes, pour peut-être créer de l'argent, comme ça a été le cas par le passé.
Et j'ai une dernière petite question avant de clôturer l'interview. En tant qu'acteur associatif, je l'ai posé un peu cette question-là tout à l'heure à d'autres personnes, mais quels sont un peu vos obstacles, vos complications ? Parce que bien sûr, il y a une intégration territoriale. Bien sûr, on doit des fois fermer la porte au nez. Quelles sont vos complications, vos obstacles principaux ?
D'abord, c'est difficile de se changer soi-même. Parce que c'est bien beau de demander aux gens de changer, mais il faut aussi se changer soi-même. Et je peux vous dire que c'est pas simple. Donc c'est un travail un peu de tous les jours, d'autant qu'on a un entourage. Donc il faut se convaincre non seulement soi-même, mais également l'entourage. Donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que parfois, j'en conviens ici, où on adore, où on déteste. Donc où ça ouvre des portes, où ça enferme. Et troisième difficulté, c'est qu'on travaille sur le changement. Quand vous interrogez quelqu'un, tout le monde est prêt à changer. Mais dans la réalité, non. C'est très dur de changer d'habitude. On le sait bien pour soi-même. Donc c'est aussi ça, la difficulté. Et on ne se rend pas compte à quel point on est enfermé dans un système où on n'a pas envie de changer, quoi. Moi, j'étais au congrès du bâtiment durable mardi et mercredi à Montpellier. Rob Hopkins a dit... il faut que vous soyez ridicule. Si vous êtes ridicule quand vous faites des propositions, c'est que vos propositions sont suffisamment dérangeantes. On a déjà fait le possible et ça ne marche pas. Maintenant, il faut faire l'impossible. Donc ça montre bien le gap, hein, la hauteur de la marche qui est à franchir quand on veut changer d'habitude.
Cesser de croire que toutes les propositions sont utopiques. Exactement. Oui, alors merci beaucoup Philippe pour ton temps. Et nous on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause musique.
Tout à fait, nous serons avec la ressourcerie qui est représentée aujourd'hui par Natacha Ogmar. Restez bien avec nous, bien sûr, sur Radio Alliance Plus.